Audible Studio présente La roue du temps, tome 5, Les feux du ciel, de Robert Jordan, traduit de l'anglais par Jean-Claude Mallet, lu par Arnaud Leridan. Avec son avènement, les terribles feux reviennent à la vie. Les collines brûlent et les terres se flétrissent. Les marées humaines refluent et les heures se fanent. Alors que le mur est percé, se lève le voile de la séparation. Des tempêtes font rage par-delà l'horizon, et les feux du ciel purifient la terre. Car il n'est pas de salut sans destruction, et nul espoir de ce côté-ci de la mort. Extrait des prophéties du dragon, traduction attribuée à Endelia Bassolein, première servante et fidèle de l'épée de Raiden de Holcushon, environ 400 ans avant la dislocation du monde. Prologue. Les premières étincelles. Assise à son bureau, Elaïda Doavrini Airoihan jouait distraitement avec la longue étole rayée de cette couleur qui reposait sur ses épaules. L'étole de la chair d'Amirline. Au premier coup d'œil, n'importe qui eût qualifié cette femme de belle, voire de superbe. Mais au deuxième regard, la froideur de son visage sans âge, une caractéristique de toutes les Aes Sedai, gâchait cette impression. Et si l'accablante austérité d'Elaïda ne devait rien à quelque contrariété séculière, la lueur furieuse qui dansait dans son regard aggravait encore les choses, en supposant que quelqu'un l'eût remarqué. Bouillant de rage, Elaïda écoutait à peine les sœurs assises sur des tabourets en face d'elle. Vêtue de robes qui allaient du blanc le plus pur au rouge le plus vif, en soie ou en laine selon ce que leur dictait leur goût, toutes ces femmes, à l'exception d'une seule, arboraient leur châle de cérémonie ornée d'une flamme de tarvalonne dans le dos. La couleur des franges indiquant à quel âge elles appartenaient, on se serait cru dans une réunion du hall de la tour. Mais si elles débattaient des rapports et des rumeurs concernant les événements en cours dans le monde, avec l'intention louable de séparer la vérité des affabulations et de prendre des décisions judicieuses, ces Aes Sedai daignaient à peine jeter de temps en temps un coup d'œil à la dirigeante qu'elles avaient pourtant juré de servir fidèlement. Elaïda ne parvenait pas à se concentrer sur leur bavardage. Ces femmes ne savaient pas ce qui comptait vraiment, ou plutôt, elle le savait, mais redoutait d'en parler.
« On dirait bien qu'il se passe quelque chose au Chiennard, »
fit Danel. Trop encline à la rêverie pour son propre bien, cette mince jeune femme était l'unique représentante de l'âge marron. Le vert et le jaune aussi n'avaient qu'une seule sœur présente, et les trois ordres s'en plaignaient amèrement. Le bleu, lui, brillait tout simplement par son absence. Une petite tache d'encre sur la joue, sa robe de laine grise froissée, Danel semblait vraiment plongée dans un autre monde.
« On parle d'escarmouches, »
continua-t-elle.
« Pas contre les Trollocs ni contre les Aïels, même si les raids via les passes de Niam se font de plus en plus fréquents. Des affrontements entre factions du Chiennard. Dans les terres frontalières, c'est très rare. Eh bien, s'ils veulent s'offrir une guerre civile, ils ont choisi le meilleur moment. »
Lâcha froidement Alviarine. Sa grande taille et sa finesse mise en valeur par sa robe de soie blanche, c'était la seule qui ne portait pas de châle. À la place, elle arborait l'étole de la gardienne des chroniques, blanche afin de symboliser son âge d'origine. Contrairement à Elaïda, elle n'était pas issue du rouge. Une entorse à la tradition voulant que la chair d'Amirline choisisse une gardienne venant de son ancien Aja. Quant à la froideur, c'était la marque de fabrique des sœurs blanches.
On pourrait croire que les Trollocs se sont volatilisés. La flétrissure est si calme que deux fermiers aidés d'une novice suffiraient à la surveiller.
Sans baisser les yeux dessus, Tesline battit comme un jeu de cartes les feuilles de parchemin qui reposaient sur ses genoux. Faisant partie des quatre sœurs rouges présentes, une majorité écrasante, elle n'avait pas grand-chose à envier à Elaïda en matière d'austérité. Et face à elle, personne n'avait jamais eu l'idée saugrenue de songer à une quelconque forme de beauté.
« Il vaudrait mieux peut-être qu'il y ait un peu plus d'action, »
fit Tesline, son accent ilianien à couper au couteau.
« Ce matin, un message m'a appris que le maréchal du Saldaïa a mis une armée en mouvement. Pas vers la flétrissure, mais dans la direction opposée, au sud-est. Si le calme ne régnait pas le long de la flétrissure, il n'aurait jamais pris une telle initiative. « On parle de Mazrim Taïm, »
dit Alviarine, comme si elle évoquait la pluie et le beau temps, ou le prix d'un tapis, et non une catastrophe potentielle. Pour capturer Taïm, la Tour Blanche n'avait pas ménagé ses efforts, et elle en était au moins aussi prodigue pour dissimuler son évasion. Si on apprenait que les Aes Sedai n'étaient pas fichus de garder un faux dragon après l'avoir arrêté, ça n'ajouterait certainement pas à leur gloire.
« On dirait bien que la reine Tenobia ou Davram Bachere, voire les deux, nous pense incapables de résoudre de nouveaux problèmes.
Un silence de mort accueillit cette déclaration. Capable de canaliser le pouvoir, Mazrim Taim était en route vers Tarvalon pour y être apaisé, lorsqu'on l'avait aidé à s'évader. Mais ce n'était pas ça qui incitait toutes ces femmes au silence. Naguère, la seule existence d'un homme en mesure d'utiliser le pouvoir de l'unique était l'abomination ultime. L'Aja rouge se consacrait à traquer ces horreurs de la nature, et tous les autres Ajas ne reculaient devant rien pour l'aider. Mais les choses avaient changé. Si les sœurs s'agitaient nerveusement sur leur siège, évitant soigneusement de se regarder dans les yeux, c'était pour une toute autre raison. Parler de Taim, en effet, risquait de les entraîner sur un terrain glissant qu'elles entendaient éviter à tout prix. Et Laïda elle-même en avait des remontées de bile. De toute évidence, Alviarine ne partageait pas le malaise de ses compagnes.
« Je m'assurerai que nous redoublions nos efforts pour capturer Taim, »
dit-elle avec un rictus qui, chez quelqu'un d'autre, aurait pu passer pour un demi-sourire.
« Et je propose que nous envoyions une sœur auprès de Tenobia, afin qu'elle lui tienne lieu de conseillère. Il faudra choisir une femme assez expérimentée pour venir à bout de la résistance têtue que pourrait lui opposer une jeune souveraine. »
Le silence retombant, Jolyne se dévoua pour le dissiper.
« C'est vrai, »
dit-elle en ajustant sur ses épaules un châle aux franges vertes. Elle eut un sourire forcé.
« Tenobia a besoin d'une Aes Sedai capable de tenir tête à Bashiri. Cet homme a trop d'influence sur la reine. Il faut qu'il rappelle son armée afin qu'elle puisse intervenir si la flétrissure se réveillait soudain. »
Au goût d'Elaïda, le décolleté de Jolyne en dévoilait beaucoup trop. Sa robe de fine soie verte était bien trop moulante et elle souriait plus qu'il était décent, surtout aux hommes. Mais ça, c'était une caractéristique de toutes les sœurs vertes.
« Une autre armée en mouvement! Voilà bien la dernière chose dont nous avons besoin !»
s'exclama Chémérine. Rondelette de nature, cette sœur jaune n'avait jamais vraiment réussi à afficher le calme extérieur seyant à une Aes Sedai. Depuis toujours, une vague angoisse voilait son regard, et ça ne s'était pas arrangé ces derniers temps.
« Il faudrait aussi envoyer quelqu'un au Chienard !»
ajouta Javindra, une autre sœur rouge. Le visage taillé à la serpe, elle parlait d'un ton dur, comme si elle lançait en permanence des accusations.
Je déteste qu'il y ait des troubles de ce genre dans les terres frontalières. Imaginez que le Chienard s'affaiblisse au point de ne plus pouvoir repousser une attaque des Trollocs. C'est une idée terrifiante,
concéda Alviarine.
Mais nous avons déjà des yeux et des oreilles au Chienard, liés aux sœurs rouges à coup sûr, et peut-être à d'autres Ajas.
Bien qu'à contre-cœur, les quatre sœurs rouges acquiescèrent, et elles furent les seules.
Eh bien,
continua Alviarine,
ces agents pourront nous avertir si les escarmouches prennent un tour inquiétant.
Dans la tour, tout le monde faisait mine d'ignorer que les Ajas, à l'exception du Blanc, dédié à la logique et à la philosophie, avaient des yeux et des oreilles dans tous les pays. La toile d'araignée de l'Aja jaune avait cependant la réputation d'être de bien piètre qualité. Sur la maladie ou la guérison, que pouvait-on apprendre de personnes incapables de canaliser le pouvoir? Certaines sœurs avaient des agents privés dont l'identité était encore mieux protégée que celle des espions des Ajas. Et en matière de réseau, tant institutionnel que personnel, l'Aja bleu avait longtemps eu le plus complet et le plus tentaculaire.
« Au sujet de Tenobia et de Davram Bashiri, »
reprit Alviarine,
« sommes-nous toutes d'accord sur le principe qu'ils doivent être contrôlés par des sœurs ?»
Elle laissa à peine le temps à ses compagnes d'acquiescer et enchaîna.
« Parfait, l'affaire est entendue. Pour Tenobia, Memara sera idéale. Elle ne gobera aucune des fadesses de la reine, tout en étant assez subtile pour laisser assez de mou à sa laisse, histoire qu'elle n'en soupçonne pas l'existence. » « Quelqu'un a des nouvelles récentes de la Raddoman ou du Tarabon ? Si nous n'agissons pas très vite là-bas, nous risquons de découvrir que Pedron Nial et ses capes blanches sont allés de Bandar Eban à la Côte des Ombres. Evan Elaine, tu as des informations ? »
La guerre civile faisait rage en Araddoman et au Tarabon, entre autres fléaux. En fait, le désordre régnait partout. Et Laïda s'étonna que quelqu'un ait osé remettre le sujet sur le tapis.
« Non, seulement de vagues rumeurs. »
répondit Evan Elaine. Avec sa robe de soie très bien coupée et son décolleté audacieux, la sœur grise aurait tout aussi bien pu appartenir à l'Aja vert. Au moins là, il était commun d'accorder toute son attention à son apparence et à ses vêtements.
Dans ces infortunés pays, tous les gens sont sur les routes pour fuir les violences, y compris nos informateurs. La panarche Amatera s'est volatilisée, et on murmure qu'une Aes Sedai y est pour quelque chose.
Elaïda serra nerveusement son étole. Rien ne transparut sur son visage, mais une lueur brûlante dansa dans son regard. La question de l'armée du Saldaea était réglée. Au moins, Memara appartenait à l'Aja rouge, et ça, c'était une bonne surprise. Mais personne ne lui avait demandé son avis. Une affaire rondement menée.
en supposant qu'il ne s'agissait pas d'une des innombrables histoires à dormir debout qui arrivaient sans cesse de la côte occidentale, l'idée, pourtant choquante, qu'une Aes Sedai soit impliquée dans la disparition de la Panarche, ne parvenait pas à détourner l'attention d'Elaïda de ses inquiétudes internes. Il y avait des Aes Sedai partout, de l'océan d'Arit à la colonne vertébrale du monde, et les Sœurs Bleues, au minimum, étaient parfaitement imprévisibles. Moins de 2 mois plus tôt, toutes les femmes présentes étaient prosternées devant la nouvelle chair d'Amyrline pour lui jurer fidélité. Et voilà qu'elle prenait déjà des décisions majeures sans daigner l'en informer. Au cœur de la tour, le bureau de la dirigeante n'était pas situé au dernier étage, loin de là. Pourtant, il dominait tout l'édifice de sa puissance, exactement comme la tour blanche, de la couleur des vieux ossements, dominait la grande cité insulaire de Tarvalon, nichée entre les bras du fleuve Erinin. Et la glorieuse ville dominait, ou en tout cas aurait dû dominer le monde. Avec son sol en pierre rouge venu des montagnes de la brume, sa grande cheminée en marbre du Candor, et ses murs lambrissés d'un antique bois clair sculpté d'oiseaux et d'animaux mystérieux, le bureau témoignait du pouvoir dont bénéficiaient depuis les origines toutes les femmes qu'il avait occupées. Ultime touche de splendeur, la grande porte-fenêtre, à l'encadrement composé d'une variété de pierres aussi brillantes qu'une perle, un trésor rapporté d'une cité inconnue, naufragée dans la mer des tempêtes lors de la dislocation du monde, donnait sur un fabuleux jardin privé. Le siège même du pouvoir, parfait reflet de toutes les chairs d'Amyrline, qui faisaient depuis près de 3000 ans danser les royaumes au rythme de leur musique. Et ses fichues sœurs avaient osé ne pas demander son avis à Elaïda. Ses vexations devenaient de plus en plus fréquentes. Plus grave encore, et plus énervant, ces femmes usurpaient l'autorité de leur dirigeante comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Bien entendu, elles savaient comment Elaïda avait accédé à son poste. Sans elle, force eût été de l'admettre, elle n'aurait jamais pu poser l'étole sur ses épaules. En un sens, Elaïda en était elle-même beaucoup trop consciente. Cela dit, il ne fallait quand même pas exagérer. Bientôt, la chair d'Amyrline devrait remettre de l'ordre dans tout ça. Mais l'heure n'avait pas encore sonné. Histoire d'apporter sa touche à la pièce, du moins autant que possible, Elaïda y avait fait installer un superbe bureau sculpté d'un motif spécial, 3 anneaux imbriqués, et un majestueux fauteuil dont le haut dossier, orné d'une flamme de Tarvalon en ivoire, s'élevait au-dessus des cheveux noirs de son occupante comme une grande larme de neige immaculée. Sur le bureau, 3 coffrets laqués d'Altara reposaient à équidistance les uns des autres. Dans l'un d'eux, Elaïda avait rangé les plus belles pièces de sa collection de figurines. Sur un socle très simple, contre un mur, les roses rouges contenues par un beau vase blanc embaumaient l'atmosphère de la pièce. Depuis l'intronisation d'Elaïda, il n'avait pas plu un seul jour. Mais quand on savait canaliser le pouvoir, on ne manquait jamais de fleurs, quelle que fût la saison. Elaïda aimait depuis toujours les fleurs, si faciles à tailler et à arranger quand on désirait créer de la beauté. Les 2 uniques tableaux étaient disposés afin que la chair d'Amyrline, assise à son bureau, n'ait qu'à lever légèrement les yeux pour les contempler. À l'exception d'Alviarine, la seule qui y jeta parfois un coup d'œil, toutes les autres Aes Sedai admises dans le fief de la dirigeante évitaient soigneusement de les regarder.
« Des nouvelles d'Elaine ?»
demanda Andaya d'une voix hésitante. Petite, fine et apparemment d'une timidité maladive malgré son masque typique d'Aes Sedai, la seconde sœur grise ne semblait pas taillée pour arbitrer harmonieusement des conflits. En réalité, elle était un des membres les plus doués de son agent diplomatique. En tendant l'oreille, on captait dans sa voix des vestiges de l'accent du Tarabone.
« Ou de Galad ? Si Morgas s'avise que nous avons perdu la trace de son beau-fils, elle risque de devenir plus insistante au sujet de ce qu'il est advenu de sa fille. Et si elle découvre que nous avons également perdu cette trace-là, le royaume d'Andorre risque de nous regarder d'un aussi mauvais œil que la Malicia. »
Quelques sœurs acquiescèrent. Hélas, il n'y avait pas de nouvelles des 2 jeunes gens.
« Une sœur rouge s'est infiltrée au palais royal, »
dit Javindra.
« Ayant reçu son châle récemment, elle n'a aucun mal à dissimuler son identité d'Aes Sedai. »
En d'autres termes, cette sœur n'avait pas encore le visage sans âge caractéristique des femmes qui canalisent le pouvoir depuis longtemps. Si un profane avait tenté de déterminer l'âge des Aes Sedai présentes dans le bureau, il se serait dans chaque cas trompé d'une bonne 20aine d'années, dans un sens ou un autre, et parfois même de plus du double.
« Mais elle a été bien formée. Elle est puissante dans le pouvoir. » Et elle n'a pas les yeux dans sa poche. Pour l'instant, Morgas se consacre à son grand projet visant à revendiquer le trône du Caerien.
Voyant plusieurs sœurs s'agiter sur leur siège, Javindra sembla s'apercevoir qu'elle venait d'aborder un sujet brûlant. Du coup, elle se hâta d'enchaîner.
« Et son nouveau galant, le seigneur Gaebril, suffit à meubler son temps libre. Savez-vous qu'elle est folle de cet homme ? Il l'aide à rester concentré sur le Caerien. »
dit Alviarine.
« Dans ce pays, tout va presque aussi mal qu'au Tarabone et en Arad-Doman. La famine sévit. Et toutes les maisons nobles s'écharpent pour s'approprier le trône du soleil. Morgaz rétablira l'ordre, mais pour ça, il lui faudra du temps. Jusqu'à ce qu'elle ait réussi, Il ne lui restera pas assez d'énergie pour s'occuper d'autre chose, sa fille héritière comprise. De plus, j'ai ordonné à une scribe de lui envoyer des lettres de temps en temps. Cette femme imite très bien l'écriture d'Elaine. Ça occupera Morgaz jusqu'à ce que nous ayons retrouvé sa précieuse fille. Au moins nous tenons fermement son fils,
dit Jolene, souriante.
En ce qui concerne Gawain, tenir est un bien grand mot,
lâcha froidement Tesline.
Avec sa jeune garde sur les deux rives du fleuve, il multiplie les escarmouches contre les fils de la lumière. En réalité, loin de nous obéir, il n'en fait qu'à sa tête. Mais nous le reprendrons en main,
assura Alviarine. Au fil du temps, la sérénité inébranlable de cette femme commençait à taper sur les nerfs d'Elaïda.
Puisqu'on parle des fils,
intervint Danel.
Il semble que Pedron Nial soit en train de mener des négociations secrètes pour convaincre l'Altara et le Mourandi de céder ses terres à Liliane. Tout ça pour empêcher le Conseil des Neufs d'envahir un des pays, voire les deux.
Bien à l'abri dans la tour, les femmes assises en face d'Elaïda se perdirent en bavardage au sujet du seigneur général des Capes Blanches. Son initiative n'allait-elle pas valoir trop d'influence au Fils de la Lumière? Dans ce cas, ne fallait-il pas interrompre les négociations afin que la Tour Blanche puisse y faire irruption et prendre la place de Nial? Elaïda eut une moue accablée. Tout au long de son histoire, la Tour Blanche avait souvent dû se montrer prudente par nécessité, car trop de gens en avaient peur et s'en méfiaient. Mais elle n'avait jamais eu peur de rien ni de quiconque. Désormais, elle tremblait de terreur. La chair d'Amirline leva les yeux vers ses tableaux. Le premier, un triptyque, représentait Bonwyn, la dernière sœur rouge élevée avant elle au poste suprême un millénaire plus tôt. Sur le premier panneau, Bonwyn, grande et fière, orchestrait les menées et manipulations des Aes Sedai contre Arthur Eldefaucon. Sur le deuxième, campée sur les remparts de Tarvalon, elle défiait du regard les hordes d'assaillants du monarque. Sur le troisième, agenouillée dans le hall de la tour, elle subissait l'humiliation d'être dépouillée de son étole et de son sceptre, le châtiment pour avoir failli provoquer la destruction de la Tour Blanche. Beaucoup de sœurs se demandaient pourquoi Elaïda avait fait exhumer le triptyque du débarras obscur où il croupissait, couvert de poussière. Si personne n'osait l'interroger à ce sujet, la chair d'Amerline avait entendu bien des murmures. À l'évidence, ces femmes ne comprenaient pas qu'avoir en permanence sous les yeux le prix terrible de l'échec était une absolue nécessité. Simple tableau réalisé sur une toile, comme c'était désormais la mode, la seconde peinture était une copie de l'esquisse d'un artiste des rues de l'Ouest lointain. Chez les Aes Sedai, sa vue semait encore plus le trouble que celle du triptyque. Entourés de nuages, deux hommes s'affrontaient dans ce qui semblait être le ciel, des éclairs leur tenant lieu d'armes. L'un avait un visage de flamme et l'autre, grand et jeune, arborait des cheveux roux. C'était en le voyant que les sœurs serraient les dents, et Elaïda n'échappait pas à la règle. Mais elle n'aurait su dire si c'était de colère ou pour les empêcher de claquer. Cela posé, la peur pouvait être contrôlée, et dans ce cas précis, c'était impératif.
« Nous avons terminé, je crois, »
dit Alviarine en commençant à se lever. Les autres l'imitèrent, tirant sur leurs jupes et leurs châles pour les défroisser.
« Vous ai-je autorisé à vous retirer, mes filles ?»
demanda Elaïda. Les premiers mots qu'elle prononçait depuis qu'elle avait invité ses visiteuses à s'asseoir. Et bien entendu, toutes lui jetèrent un regard surpris. Un regard surpris, rien que ça? Certaines daignèrent bien revenir vers leur siège, sans précipitation évidemment, mais aucune ne songea à s'excuser. Décidément, Elaïda leur avait trop longtemps laissé la bride sur le cou.
« Puisque vous êtes debout, inutile de vous rasseoir en attendant que j'aie fini de parler. »
Les sœurs qui avaient déjà la moitié d'une fesse sur leur siège se relevèrent, l'air effaré.
« Je n'ai rien entendu au sujet des recherches concernant cette femme et ses complices. »
Cette femme désignait la chair d'Amerline précédente. Nul n'avait besoin d'un dessin. C'était tant mieux, car avec chaque jour qui passait, Elaïda avait de plus en plus de mal à évoquer, même en pensée, le nom de celle qui occupait le poste avant elle, et qui était responsable de tous ses problèmes actuels, du premier jusqu'au dernier.
« Ce n'est pas simple, »
répondit Alviarine,
« puisque nous avons fait circuler des rumeurs sur son exécution. »
Furieuse que cette sœur ait de la glace dans les veines à la place du sang, Elaïda la dévisagea jusqu'à ce qu'elle consente à ajouter un maire totalement dénué de ferveur et de conviction. Elaïda balaya les autres sœurs du regard.
« Jolene, »
dit-elle d'un ton dur,
« tu es chargée de ces recherches et de l'enquête sur l'évasion. Dans les deux cas, je n'entends qu'une seule phrase. C'est difficile. Ma fille, une pénitence quotidienne serait-elle de nature à te stimuler? Écris donc un rapport qui tienne la route et soumets-le-moi. Si je le trouve sans intérêt, tu auras droit à 3 pénitences quotidiennes. »
L'éternel sourire de Jolene s'effaça, une petite victoire pour la chair d'Amerline.
« J'obéirai, mère. »
lâcha-t-elle à contre-cœur sous le regard furibond de la dirigeante. Une soumission rien moins que sincère, mais qui ferait l'affaire en attendant mieux.
Et où en sont nos tentatives pour amener à la tour les fugitives ?
Demanda Elaïda d'un ton encore plus coupant. Le retour des sœurs qui avaient fui après la chute de sept femmes impliquait que l'Aja Bleu soit de nouveau présent à la tour. Doutant de pouvoir accorder sa confiance à des sœurs bleues, Elaïda n'était pas sûre d'être capable de pardonner à toute personne qui s'était enfuie, au lieu de célébrer comme il se devait sa nomination. Pourtant, il fallait bien que la tour soit au complet.
« Là encore, ce n'est pas simple. »
répondit Javindra, chargé de cette délicate mission. Voyant qu'Elaïda la foudroyait du regard, l'austère Aes Sedai se passa nerveusement la langue sur les lèvres.
« Mère, j'ai assez entendu cette chanson-là, ma fille. Demain, tu me remettras la liste de toutes les actions que tu as entreprises, sans oublier celles qui visent à cacher au monde extérieur les dissensions qui sévissent dans la tour. »
Ce point était d'une importance capitale. Malgré la nomination mouvementée d'une nouvelle chair d'Amerline, la tour devait afficher plus que jamais sa force et son unité.
« Si tu n'as pas assez de temps pour faire le travail que je te confie, tu devrais envisager de renoncer à ton poste de conseillère au hall de la tour. Je vais y réfléchir, n'aie aucune crainte. Mère, ce ne sera pas nécessaire. Le rapport sera sur ton bureau demain. Mais je suis sûr que beaucoup de fugitives reviendront bientôt. »
Elaïda n'aurait pas parié là-dessus, même si c'était son plus cher souhait. La tour devait être forte et unie. C'était vital. À part Alviarine, toutes les sœurs parurent pensives et troublées. Si Elaïda était prête à attaquer durement une sœur appartenant à son ancien Aja, et à rudoyer encore plus une Aes Sedai verte qui la soutenait depuis le premier jour, la traiter comme une dirigeante de paille n'était peut-être pas judicieux. Certes, ses compagnes avaient rendu possible sa nomination, mais elle était bel et bien la chair d'Amerline désormais. Quelques démonstrations de force de ce genre, durant les prochains jours, remettraient les sœurs sur le droit chemin. Et dans le cas contraire, Elaïda les accablerait de pénitence, jusqu'à ce qu'elle lui demande grâce.
« Il y a des soldats de Théar au Kairien, et également des Andoriens. Les premiers ont été envoyés par l'homme qui a conquis la pierre de Théar. »
Chémérine croisa ses mains potelées à s'en faire blanchir les phalanges, et Tesline tressaillit. Comme toujours, seule Alviarine ne broncha pas, aussi peu sillonnée de remous qu'une mare glacée.
« Regardez ça !»
s'écria Elaïda en désignant le tableau où deux hommes se battaient à grands coups d'éclair.
« Regardez, c'est un ordre! Sinon, vous finirez toutes par briquer le sol à genoux. Si vous n'avez pas le cran de faire face à une peinture, comment réagirez-vous à ce qui nous attend? La tour blanche n'a nul besoin de quard !»
Les sœurs relevèrent lentement les yeux en battant nerveusement des pieds comme des petites filles, pas des Aes Sedai. Seule Alviarine daigna à peine pointer le nez vers le haut et sans paraître le moins du monde affecté. Chémérine se tordit les mains et des larmes perlèrent à ses paupières. Elle était trop nerveuse. Il faudrait faire quelque chose un jour ou l'autre.
« Rends Altor, un homme capable de canaliser le pouvoir !»
lança Elaïda. Ses propres mots lui retournèrent l'estomac au point qu'elle faillit vomir. Mais elle parvint à garder une contenance et continua son discours, ou plutôt sa salve verbale.
« Un homme condamné à devenir fou et à commettre des horreurs avec le pouvoir avant de mourir. Et s'il n'y avait que ça, à cause de lui, l'Arad Doman, le Tarabon et tout ce qui se trouve entre les deux ne sont plus qu'un champ de ruines ou un foyer de rébellion. Si la guerre civile et la famine qui font rage aux Kairiennes ne peuvent pas lui être imputées à coup sûr, il provoquera sans doute un conflit plus grave encore entre Théar et Andorre, alors que la Tour Blanche a besoin que règne la paix. Au Géaldan, des démons venus du Chiennard prêchent en sa faveur devant des foules trop importantes pour que l'armée d'Aliandre parvienne à les contenir. Confronté à la plus grande menace que la Tour ait jamais dû affronter, et au plus grand ennemi qui se soit dressé contre le monde, vous n'avez pas le courage d'en parler ? Et vous détournez les yeux pour ne pas voir son image ?
Un grand silence s'ensuivit. À part Alviarine, toutes les sœurs semblaient avoir perdu leur langue. Les yeux rivés sur le jeune homme de la peinture, elles paraissaient hypnotisées comme par un serpent.
« Rends Altor !»
cracha Elaïda, comme si ce nom lui laissait un mauvais goût dans la bouche. Un jour, elle avait eu à sa merci ce jeune homme à l'apparence innocente. Elle n'avait pas su le reconnaître pour ce qu'il était. Avant de s'évader, cette femme, soumise à la torture, lui avait fait des révélations à peine croyables, qu'elle avait d'ailleurs refusé de croire dans leur totalité. Si les rejetés étaient en liberté, alors il n'y avait peut-être plus d'espoir, tout simplement. Mais la prisonnière n'avait pas tout dit, et elle s'était enfuie avant qu'on puisse de nouveau la mettre à la question. Cette maudite femme, et moi reine, une fichue sœur bleue qui savait tout depuis le début. Elaïda espérait bien les revoir très bientôt à la tour. Et là, elle dirait tout, jusqu'au dernier mot, implorant qu'on les achève pour abréger leurs souffrances. Même si les mots lui arrachaient la langue, Elaïda se força à continuer.
« Mes filles, rends Altor et le dragon réincarné !»
Ses genoux se dérobant, Chémérine dut s'asseoir à même le sol. D'autres sœurs parurent sur le point de défaillir.
C'est une certitude. C'est bien celui dont parlent les prophéties. Le ténébreux sortira bientôt de sa prison, et l'ultime bataille approche. Si le dragon réincarné n'est pas là pour y participer, le monde sera condamné au feu et à la destruction tant que la roue du temps tournera. Et Altor est en liberté, mes filles. Nous ne savons pas où il est. Si nous ne savons pas où il est, nous connaissons au moins certains endroits où il n'est pas. Par exemple, il a quitté Théar. Et il n'est pas dans la tour coupée de la source authentique comme il conviendrait. Il sème la tempête dans le monde, et nous devons l'en empêcher pour avoir une infime chance de survivre à Taramon Gaidon. Il nous faut le contrôler pour être sûr qu'il jouera son rôle dans l'ultime bataille. Pensez-vous qu'il ira de son plein gré vers la mort que lui prédisent les prophéties? Tout ça pour sauver le monde? Quelle importance pour un fou furieux! Nous devons tirer les ficelles de cette marionnette! Mère,
commença Alviarine, toujours aussi imperturbable. Mais Elaïda la réduisit au silence d'un seul regard.
Capturer Randaltor est beaucoup plus important que de se soucier des escarmouches au Chiennard ou de l'étrange quiétude de la flétrissure. C'est une priorité, bien avant Elaine, Galad ou même Mazrim Taim. Vous devez trouver le dragon réincarné. Lors de notre prochaine réunion, chacune d'entre vous devra me dire ce qu'elle aura fait pour atteindre cet objectif. Et maintenant, mes filles, vous pouvez vous retirer.
Après une série de « Nous t'obéirons, mère », angoissés et furtifs, les sœurs se ruèrent vers la porte, Jolyne aidant au passage Chémérine à se redresser sur ses jambes tremblantes. Pour la prochaine démonstration de force, la sœur jaune serait idéale. Et de toute façon, elle était bien trop faible pour continuer à appartenir à ce conseil restreint. Il faudrait d'autres exemples, afin d'assurer qu'aucune de ces femmes ne revienne à ses erreurs. Mais quoi qu'il en soit, ce petit cercle de sœurs ne garderait pas longtemps son pouvoir. Car le hall de la tour danserait bientôt au rythme de la seule musique de l'Aïda. Toutes les sœurs déguerpirent, sauf Alviarine. Lorsque la porte se fut refermée, les deux femmes se défièrent un long moment du regard. Alviarine avait été la première à accepter d'entendre, puis de croire, les accusations d'Elaïda contre la précédente chair d'Amerline. Depuis, elle savait parfaitement pourquoi l'étole de la gardienne reposait sur ses épaules. Si l'âge à rouge avait soutenu Elaïda avec une belle unanimité, le blanc avait été loin de l'imiter. Et si elle n'avait pas réussi à se gagner son approbation, perdant ainsi celle de bien d'autres Aes Sedai, Elaïda aurait fini dans une cellule au lieu d'accéder au pouvoir suprême, en supposant que sa tête n'aurait pas trôné au bout d'une pique afin de satisfaire la voracité des corbeaux. En d'autres termes, Alviarine serait bien moins facile à intimider que ses compagnes, si elle était intimidable. Dans son regard, on voyait bien qu'elle tenait Elaïda pour son égale, pas pour sa supérieure. Brisant le silence, quelqu'un frappa à la porte.
« Entrez !»
cria Elaïda. Mince, la peau très pâle, une acceptée se glissa timidement dans le bureau et s'inclina aussitôt si bas que sa robe blanche à l'ourlet ornée de sept bandes de couleurs forma comme une corolle autour d'elle. À voir ses yeux bleus écarquillés et sa façon de les garder rivés sur le sol, on pouvait parier qu'elle avait remarqué l'affolement des Aes Sedai qui venaient de sortir. Et quand une sœur quittait un lieu en tremblant, une acceptée avait toutes les raisons d'y entrer en mourant de peur.
« Mais, mère !»
balbutia la jeune femme.
« Mais, maître Fane est ici. Il dit que vous vouliez le voir à cette heure précise. »
Tremblant comme une feuille, l'acceptée toujours inclinée humblement manqua à basculer en avant.
« Alors introduis-le, mon enfant, au lieu de le faire attendre !»
s'écria Elaïda. Si elle n'avait pas bloqué le visiteur, la chair d'Amerline aurait fait écorcher vive la petite dinde. Mais la colère qu'elle ne montrait pas à Alviarine, pas parce qu'elle n'osait pas, mais par intelligence stratégique, devait bien se déverser sur quelqu'un.
« Et si tu n'apprends pas très vite à parler sans bafouiller, une place de souillon de cuisine t'attend, tu peux me croire. Alors, vas-tu enfin exécuter mes ordres? Secoue-toi, voyons! Et dis à la maîtresse des novices qu'elle doit apprendre à obéir à la vitesse de l'éclair. »
L'acceptée couna quelques mots qui étaient peut-être une réponse adéquate, puis elle sortit sans demander son reste. Au prix d'un gros effort, Elaïda reprit le contrôle de ses nerfs. Elle se fichait que Sylviana, la nouvelle maîtresse des novices, roule la petite idiote de coups ou se contente de lui faire un sermon. Voyant très rarement des novices ou des acceptés, sauf lorsqu'elle faisait irruption dans son bureau, elle s'en fichait comme d'une guigne. En revanche, elle entendait briser Alviarine, et pour ça, elle ne ménagerait pas ses efforts. Tout d'abord, il fallait s'occuper de Fane. Se tapotant la lèvre du bout d'un index, Elaïda repensa à ce petit type maigrichon au nez proéminent. Quelques jours plus tôt, il avait débarqué à la tour vêtu de haillons trop grands pour lui, mais qui avaient dû être des vêtements luxueux dans une vie antérieure. Tour à tour arrogant et implorant, Fane avait demandé une audience avec la chair d'Amerline. À part ceux qui y travaillaient, les hommes s'aventuraient rarement dans le fief des Aes Sedai, sauf sous la contrainte ou poussés par la nécessité. Et ils ne demandaient jamais à voir la chair d'Amerline. Feigne devait être un dément, ou quelque chose comme un idiot du village. Prétendant être originaire de Lougarde, au Morandi, il changeait d'accent beaucoup plus souvent que de chemise, et parfois dans la même phrase. Pourtant, il semblait potentiellement utile. Les yeux rivés sur Elaïda, Alviarine affichait toujours sa neutralité glaciale. Une lueur dans son regard semblait cependant indiquer qu'elle se posait bien des questions au sujet de Feigne. De plus en plus agacée, Elaïda faillit s'unir au Saïdar, la moitié féminine du pouvoir de l'unique, pour remettre l'insolente gardienne à sa place. Mais ce n'était pas la bonne façon de s'y prendre. Alviarine était susceptible de résister, et se battre comme une paysanne qui se roule dans la poussière d'une cour de ferme n'aiderait pas la chair d'Amerline à asseoir son autorité. Cela dit, Alviarine finirait par se soumettre, comme toutes les autres. Pour l'y encourager, Elaïda allait commencer par ne rien lui dire au sujet de Maître Feigne, à supposer que ce soit le vrai nom du visiteur. Padan Feigne chassa de ses pensées l'accepté surexcité et entra dans le bureau de la chair d'Amerline. Bien sûr, il se serait volontiers régalé de cette petite idiote. Il adorait voir ses proies battre des ailes comme un oiseau qu'on serre dans son poing. Mais il avait pour l'instant d'autres priorités, autrement plus sérieuses. Joignant les mains, il inclina humblement la tête. Juste ce qu'il fallait, cependant. Les deux femmes qui l'attendaient, occupées à se défier du regard, ne parurent pas s'aviser de sa présence. Feigne se frotta vigoureusement les mains, tout ce qu'il pouvait faire pour s'empêcher d'entendre une afin de caresser du bout des doigts la tension qui régnait entre les deux sœurs. Dans la tour blanche, la division et la tension étaient partout, et Feigne s'en félicitait. Ses points faibles, très faciles à exploiter, joueraient en sa faveur. En arrivant, Feigne avait été surpris d'apprendre qu'Elaïda avait pris le pouvoir. Une bonne nouvelle toutefois. Sur bien des points, avait-il entendu dire, la nouvelle dirigeante était bien moins coriace que sa devancière. Plus dure sans doute, et plus cruelle, mais également bien plus fragile. En d'autres termes, difficile à faire plier, certes, mais susceptible d'être brisée plus aisément. Bon à savoir si l'une ou l'autre action devenait nécessaire. Cela dit, aux yeux de Feigne, une Aes Sedai, fût-elle la chair d'Amerline, ressemblait à toutes les autres Aes Sedai. Des idiotes. Dangereuses à l'occasion, mais assez stupides pour faire de parfaites dupes. Lorsque les deux sœurs s'aperçurent enfin qu'elles n'étaient plus seules, la chair d'Amerline scia comme si elle détestait être surprise. La gardienne des chroniques, en revanche, ne broncha pas.
« Tu peux te retirer, maintenant, ma fille, »
dit Elaïda. Quelle manière perfide d'accentuer le « maintenant ». L'attention, oui. Les failles du pouvoir. Des sillons où il serait enfantin de semer de mauvaises graines. À la dernière seconde, Feigne parvint à s'empêcher de ricaner. Alviarine hésita, puis elle se fendit d'une esquisse de révérence et sortit en trompe de la pièce, gratifiant Feigne d'un regard glacial, neutre et pourtant très troublant. D'instinct, le petit homme recula et rentra la tête dans les épaules. Puis il adressa au dos de la sœur un demi-rictus vengeur. Parfois, l'espace d'un instant, il avait le sentiment que cette femme en savait trop long sur lui. Pourquoi, il n'aurait su le dire. C'était sans doute à cause de son masque qui ne changeait jamais. À ces moments-là, Feigne aurait aimé faire rendre gorge à l'arrogante Aes Sedai, la voir trembler de peur, l'entendre crier de douleur, ou implorer pitié. Mais ses angoisses étaient sans fondement, ça ne faisait aucun doute. Cette femme ne pouvait rien savoir du tout. Allons, un peu de patience, et il en aurait fini avec elle et sa maudite impassibilité. Dans ses salles au trésor, la tour contenait des artefacts qui valaient bien un peu de patience, justement. Le corps de Valère s'y trouvait, ce légendaire instrument conçu pour réveiller les héros morts afin qu'ils participent à l'ultime bataille. La plupart des Aes Sedai l'ignoraient, mais Feigne était un maître dans l'art de lever les lièvres. La dague aussi était ici. À l'endroit même où il se trouvait, il sentait l'attraction que cette arme exerçait sur lui. S'il l'avait voulu, il aurait pu tendre un bras pour indiquer où elle était. Cette dague lui appartenait. Mais les Aes Sedai la lui avaient volée pour la cacher dans leur tanière. S'il récupérait son bien, toutes les souffrances de Feigne seraient comme effacées. Il n'aurait su dire comment, mais il en avait la certitude. Ainsi, il ne porterait plus le deuil d'Aridol. Car y retourner était hors de question. Risquer d'y être de nouveau piégé? Impensable. Après un si long emprisonnement, qui aurait voulu remettre ça? Bien entendu, plus personne n'appelait la cité Aridol désormais. Shadar Logoth, la tente des ténèbres. Un nom adapté. Tant de choses avaient changé, à commencer par lui-même. Padan Feigne, Mordet, Ordeit. Souvent, il ne savait plus quel nom était vraiment le sien, ni qui il était, pour être franc. En tout cas, il ne correspondait en rien aux idées qu'on se faisait de lui. Ceux qui croyaient le connaître se trompaient lourdement. Et il était transfiguré à présent, investi d'une force qui le dépassait et qui dominait tout autre pouvoir. Tous ces gens paieraient cher pour le savoir au bout du compte. Revenant au présent, Fane s'avisa que la chair d'Amirline venait de lui poser une question. En fouillant dans sa mémoire, il retrouva de quoi il s'agissait et répondit.
« Oui, mère, cette veste me va à merveille. »
Pour appuyer ses dires, Fane caressa le velours noir du bout des doigts, comme si les vêtements avaient la moindre importance.
« C'est une très bonne veste et je vous remercie humblement. »
Prêt à s'agenouiller et embrasser la bague au serpent, Fane était également préparé à subir d'autres tentatives visant à l'amadouer, histoire de lui faire baisser sa garde. Mais cette fois, l'Aes Sedai entra sans préambule dans le vif du sujet.
« Maître Fane, dites-moi tout ce que vous savez sur Randaltor. »
Fane leva les yeux sur le tableau où deux hommes se battaient dans le ciel. L'image de Randaltor le rendait presque aussi fou de rage que la présence en chair et en os de ce chien. À cause de ce jeune homme apparemment inoffensif, il avait souffert au-delà de ce qu'on pouvait imaginer et de ce qu'il était capable de se rappeler. Une souffrance bien pire que la simple douleur. Par la faute de Randaltor, il avait été brisé en 1000 morceaux, puis reconstitué. Bien entendu, ce processus lui avait fourni les armes requises pour se venger. Mais la question n'était pas là. Dès qu'il était question d'abattre Altor, de le réduire à néant plutôt, rien d'autre ne comptait aux yeux de Padan Fane. Lorsqu'il regarda de nouveau la chair d'Amirline, le petit homme ne s'aperçut pas qu'il se montrait soudain aussi autoritaire qu'elle, soutenant son regard sans ciller.
« Randaltor est retors, et il ne se soucie de rien ni de personne, à part ce qui sert son pouvoir.
Quel idiote, décidément !»«
Il n'agit jamais comme on s'y attend, se montrant donc difficile à contrôler, même si ce n'est pas impossible. Livre-le-moi et tu verras ce que j'en ferai. »
« Pour commencer, mère, tu devras tirer les ficelles d'un des rares pantins auxquels il se fit. »
Si cette femme lui livrait Randaltor, Fane envisageait de la laisser en vie quand il en aurait terminé. Oui, même s'il s'agissait d'une maudite Aes Sedai. En manche de chemise, une botte sur la coudoir rembourrée de son fauteuil orné de dorures, Ravine sourit, tandis que la femme debout devant la cheminée répétait ce qu'il venait de lui dire. Ses grands yeux marrons légèrement vitreux, cette jeune personne restait fort séduisante, même dans la robe de laine grise très ordinaire qu'elle avait choisie comme déguisement. Mais pour une fois, Ravine ne s'intéressait pas à cet aspect-là de la femme. Pas un souffle d'air n'entrant par les grandes fenêtres, il faisait une chaleur étouffante dans la pièce. De la sueur ruisselait sur le visage de la femme qui parlait, et sur celui, long et étroit, de l'autre homme présent en ces lieux. Malgré sa veste rouge ornée de broderies dorées, le type avait adopté la posture très raide d'un serviteur, exactement ce qu'il était en un sens. Mais contrairement à la femme, il disposait encore de sa propre volonté, même s'il était momentanément sourd et aveugle. N'ayant aucun intérêt à perdre des larbins si utiles, Ravine tissait avec une grande délicatesse les flux d'esprit qui entravaient le couple. Bien entendu, lui ne transpirait pas, car il ne permettait pas à la chaleur de l'été d'avoir la moindre prise sur lui. Très grand, costaud, le teint mat, il demeurait très séduisant malgré ses tempes plus que grisonnantes. Sur cette femme, user de la coercition n'avait posé aucun problème. Ce n'était pas toujours le cas. Certains sujets, très rares, avaient une telle force mentale que leur esprit, même s'ils n'avaient pas conscience de ce qui se passait, cherchait la moindre fissure dans le piège pour s'enfuir. Par un malheureux concours de circonstances, Ravine avait encore besoin d'une de ses proies récalcitrantes. Une proie qu'il pouvait maîtriser, certes, mais qui tentait sans cesse de lui échapper, alors même qu'elle ignorait être en son pouvoir. Bientôt, elle deviendrait inutile, par bonheur, et il lui resterait simplement à décider s'il devait la laisser repartir ou s'en débarrasser d'une manière permanente. Le danger rôdait partout. Rien qui puisse vraiment lui nuire, bien entendu. Mais il était depuis toujours un homme prudent et méticuleux. Les petits dangers grandissaient quand on n'y faisait pas attention, et il avait l'art de prendre des risques calculés au centième de pouce près. Alors, devait-il tuer cette proie ou lui rendre la liberté? S'avisant que la femme s'était tue, Ravine émergea de sa méditation.
« Une fois parti d'ici, dit-il, tu oublieras tout de cette visite, et tu reprendras comme si de rien n'était ta promenade matinale. »
La femme acquiesça, avide de lui plaire. Afin qu'il disparaisse dès qu'elle serait dans la rue, Ravine dénoua un peu les flux d'esprit. Le recours fréquent à la coercition facilitait l'obéissance,
même quand on ne se servait pas du lien mental d'asservissement. Hélas, celui-ci devenait un peu plus facile à détecter lorsqu'on l'activait. Ravine relâcha aussi la pression sur l'esprit des légards. Un noble mineur, certes, mais fidèle à ses engagements. Regardant la femme, il se passa nerveusement la langue sur les lèvres, puis mit un genou en terre devant Ravine. Depuis que Ravine et les autres s'étaient libérés, les suppôts des ténèbres avaient appris qu'on ne leur permettrait pas la moindre manifestation de déloyauté.
« Conduis-le dans la rue par la porte de derrière, »
ordonna le rejeté,
« afin que personne ne la voie, puis laisse-la partir. »«
À vos ordres, grand maître !»
souffla Élégard en s'inclinant, toujours en appui sur un genou. Puis il se leva, prit la femme par le bras et la tira vers la sortie tout en multipliant les courbettes à l'intention de Ravine. Le regard toujours voilé, la docile proie ne résista pas. Avant de l'abandonner, Élégard ne lui poserait aucune question. Avec le temps, il avait compris qu'il valait mieux, pour son propre bien, ne pas en savoir trop long sur certaines choses.
« Une de tes jolies poupées ?»
demanda une voix de femme derrière Ravine lorsque la porte se fut refermée.
« Les habiller comme ça est une de tes fantaisies ?»
S'unissant aux Saïdin, la moitié masculine de la source authentique, Ravine en tira un flot de pouvoir. Protégé par ses liens et ses serments, des attaches qui le reliaient à une puissance de loin supérieure à celle de la lumière, voire du Créateur, il ne sentit pas le goût atroce de la souillure. Au milieu de la pièce, un portail lévitait au-dessus du tapis rouge et or, une ouverture donnant sur un ailleurs indéfini. Avant que cette issue disparaisse, Ravine eut le temps d'apercevoir une pièce tendue de soierie immaculée. Puis son regard se posa sur l'intruse vêtue de blanc, à l'exception de sa ceinture argentée, qui venait de sortir du mystérieux passage. Seul un léger picotement, tel un frisson fugitif, permit à Ravine de deviner que la femme avait canalisé le pouvoir. Grande et mince, ses yeux noirs insondables et ses longs cheveux ornés d'étoiles et de croissants d'argent, cette visiteuse n'avait rien à envier à Ravine en matière de beauté. Face à elle, la plupart des hommes auraient eu la bouche sèche de désir.
« Que signifie cette façon de me surprendre, Lanfear ?»
demanda Ravine, le ton cassant. Juste au cas où, il ne se sépara pas du pouvoir, préparant même une série de méchantes surprises à son interlocutrice.
« Quand tu veux me parler, envoie-moi un émissaire, et attends que je te dise où et quand j'entends te voir, si je l'entends. »
Lanfear eut un sourire faussement innocent.
« Tu as toujours été un porc, Ravine, mais beaucoup plus rarement un crétin. » Cette femme est une Aes Sedai. Et si ses collègues se demandaient où elle est passée? As-tu également envoyé des héros clamer partout où tu te trouves?
Et elle me trahirait en canalisant?
Lança Ravine.
La pauvre n'est même pas assez puissante pour sortir sans sa nourrice. La tour bombarde Aes Sedai des gamines incultes dont le savoir est composé pour une moitié de trucs qu'elles ont appris toutes seules, et pour l'autre de notions dont leur pauvre compréhension a peine effleuré la surface.
« Serais-tu aussi arrogant si 13 de ces ignares se plaçaient en cercle autour de toi ?»
Le mépris de Lanfear fit mouche, mais Ravine mit un point d'honneur à ne pas le montrer.
« Je suis prudent, Lanfear. Loin d'être une de mes poupées, comme tu dis. Cette femme est l'espionne infiltrée ici par la tour. Désormais, je lui souffle ses rapports, et elle n'a rien de plus pressé qu'aller les répéter à qui de droit. Celles qui servent les élus au sein même de la Tour Blanche. » m'ont indiqué son identité.
Les élus. Bientôt viendrait le jour où, abandonnant l'ignoble nom de rejeté, le monde entier se prosternerait devant les élus. Une promesse remontant à des millénaires et qui serait tenue.
Que viens-tu faire ici, Lanfear? Sûrement pas secourir de pauvres femmes sans défense.
Lanfear haussa très légèrement les épaules.
Tu peux jouer avec tes poupées autant que ça te chante, pour ce que j'en ai à faire. Considérant ta cuistrerie en matière d'hospitalité, Ravine, tu voudrais bien m'excuser si...
Le décanteur d'argent posé sur une table de chevet, près du lit de Ravine, se souleva dans les airs, puis s'inclina pour remplir de vin une coupe en or repoussée. Quand ce fut fait, le décanteur reprit sa position initiale, et la coupe vola jusque dans la main de Lanfear. Ravine ne vit aucun flux et ne sentit rien, à part le léger picotement. Vraiment, il détestait ça depuis toujours. Et savoir que Lanfear n'aurait rien vu non plus d'un de ces tissages ne suffit pas à le réconforter.
« Que viens-tu faire ici ?»
demanda-t-il de nouveau. Lanfear sirota une gorgée de vin avant de répondre.
« Puisque tu nous évites, quelques-uns des élus vont venir ici. Je suis là en éclaireuse. Pour que tu saches qu'il ne s'agit pas d'une attaque. »«
Quelques-uns des élus ? Encore un de tes plans ?
Qu'ai-je à faire des machinations de quelqu'un d'autre ?
Ravine éclata de rire.
Donc ce n'est pas une agression. Tu n'as jamais été du genre attaqué de front, pas vrai ? Pas aussi lâche que Moghedienne, peut-être, mais quand même encline à préférer viser les flancs ou l'arrière-garde. Pour une fois, je vais me fier à toi, le temps que tu aies débité ton discours, à condition de t'avoir dans mon champ de vision en permanence.
Un idiot qui tournait le dos à l'Anfear méritait amplement de se retrouver avec un couteau entre les omoplates. Même quand on l'avait en face de lui, il fallait se méfier de son caractère volontiers volcanique.
Qui d'autre est impliqué dans cette histoire ?
Le tissage étant l'œuvre d'un homme, Ravine ne fut pas pris par surprise lorsqu'un autre portail s'ouvrit. Au-delà d'arcades donnant sur de grands balcons de pierre, des mouettes criaillaient en décrivant de grands cercles dans un ciel bleu sans nuages. Un homme apparut et franchit l'ouverture, qui se referma derrière lui. Massif, solide, et semblant plus grand qu'il l'était vraiment, Samael avait une démarche de conquérant, bien accordée à ses manières pour le moins abruptes. Avec ses yeux bleus, ses cheveux blonds et sa barbe carrée soigneusement taillée, il aurait pu être beau, sans la cicatrice qui lui barrait le visage en diagonale, comme si on y avait appliqué longuement un tisonnier chauffé au rouge. Bien entendu, il aurait pu se débarrasser de ce stigmate dès qu'il en avait été affligé, très longtemps auparavant. Mais il avait choisi de n'en rien faire. Connecté au Saïdin aussi fortement que Ravine, de si près, celui-ci pouvait sentir très faiblement ce lien, Samael le regarda sans la moindre aménité.
« Je m'attendais à voir des servantes et des danseuses, Ravine. Te serais-tu lassé de ton passe-temps favori au fil des ans ?»
L'Anfear eut un petit rire derrière sa coupe de vin.
« Quelqu'un a parlé de passe-temps ?»
Son troisième visiteur étant une visiteuse, Ravine n'avait bien entendu pas remarqué qu'un nouveau portail venait d'apparaître. Par cette ouverture, il vit très clairement une grande salle entourée de colonnes où s'alignaient plusieurs bassins. Des acrobates à moitié nus et leurs assistants encore moins couverts allaient et venaient entre les bassins. Bizarrement, un vieil homme maigrichon vêtu d'une veste froissée était assis, l'air sinistre, au milieu de saltimbanques nus. À peine plus habillé, deux serviteurs avançaient à grands pas. Un homme à la puissante charpente portait un lourd plateau en or, tandis que sa compagne, une femme voluptueuse, versait du vin dans la coupe de cristal qui trônait sur le plateau. Suivie par cet étrange couple, la troisième invitée franchit l'ouverture, qui se dissipa dès que les serviteurs l'eurent traversée aussi. Si l'Anfear n'avait pas été là, Grindal serait à coup sûr passé pour un parangon de beauté. Vêtue d'une robe de soie verte au décolleté plongeant, elle arborait entre ses seins généreux un rubis de la taille d'un œuf, et une couronne incrustée de pierres précieuses reposait sur sa longue chevelure blonde. Une vision saisissante, certes, mais sans rien, pourtant, qui pût forcer un homme à détourner les yeux de l'Anfear. Si l'inévitable comparaison agaçait Grindal, son sourire subtilement moqueur n'en laissait rien transparaître. Quand elle tendit une main lestée de bagues, faisant cliqueter toute sa théorie de bracelet en or, la servante lui glissa la coupe entre les doigts avec un sourire servile que le grand costaud au plateau s'empressa d'imiter.
« Eh bien !»
lança gaiement Grindal.
« La moitié des élus survivants réunis au même endroit. Et ils ne tentent pas de s'entretuer ? Qui aurait cru ça possible avant le retour du grand seigneur des ténèbres ? Ishamael nous a empêchés de nous sauter à la gorge pendant un temps, mais là...
« Tu parles toujours si librement devant des serviteurs ?»
demanda Samael avec une moue réprobatrice. Grindal sursauta, puis regarda ses domestiques comme s'il les avait déjà oubliés.
« Ils ne répéteront rien, parce qu'ils me vénèrent. Pas vrai ?»
Le colosse et sa compagne se jetèrent à genoux, bafouillant tant ils étaient avides de clamer leur amour pour Grindal. Une ferveur qui n'avait rien de forcé. Ils l'adoraient bel et bien. Désormais. Au bout d'un moment, Grindal plissa simplement le front et les déclamations enflammées cessèrent sur le champ.
« Ils pourraient continuer pendant des heures. Mais ils ne t'ennuieront plus, Samael. Pas vrai, vous deux ?»
Hochant pensivement la tête, Ravine se demanda qui étaient, ou avaient été, les deux serviteurs. Quand Grindal se choisissait des esclaves, la beauté n'était pas un critère suffisant. Il fallait aussi que ses jouets aient un statut très élevé. Un seigneur déchu comme valet, une dame pour faire chauffer son bain. Des goûts de luxe en quelque sorte. Une faiblesse aux yeux de Ravine, mais surtout un déplorable gaspillage. Judicieusement utilisés, ces gens auraient pu se révéler précieux. Hélas, soumis à un tel niveau de coercition, ils devaient déjà avoir perdu toute valeur autre que décorative. Décidément, Grindal n'avait aucune véritable subtilité.
« Attendons-nous encore du monde, l'Anfear ?»
maugréa Ravine.
« Aurais-tu convaincu Demon Dread qu'il n'est pas le seul héritier du Ténébreux, tout compte fait ?
Il ne l'a jamais pensé,
corrige Alan Féar.
Et encore moins après avoir vu où ça a conduit Ishamael. Du coup, nous voilà dans le vif du sujet. Un débat que Grindal a le mérite d'avoir initié. Au début, nous étions 13 immortels. Aujourd'hui, 4 sont morts et un cinquième nous a trahis. Non, Ravine, nous n'attendons plus personne.
Tu es sûr qu'Asmodéane a changé de camp ?
Demanda Samael.
Lui qui ne prenait jamais de risques, il aurait eu la témérité de se rallier à une cause perdue.
Lanfear eut un sourire amusé.
Il a trouvé le courage de monter une embuscade qui, croyait-il, lui donnerait la haute main sur nous. Ayant à choisir entre la mort et une cause condamnée, il n'a pas eu besoin de témérité pour trancher.
Ni d'une longue réflexion, j'imagine.
Souffla Samael avec un rictus mauvais qui creusa encore un peu plus sa balafre.
Si tu l'as approché d'assez près pour savoir tout ça, pourquoi est-il encore en vie ? Tu aurais pu l'abattre avant qu'il se soit aperçu de ta présence.
Je tue moins promptement que toi, c'est tout. Le meurtre est une solution trop radicale, tant qu'il existe d'autres moyens d'atteindre ses objectifs. De plus, s'il faut exprimer la chose en des termes accessibles à ta pauvre compréhension, j'ai refusé de lancer un assaut frontal contre des forces supérieures.
Il est donc si fort ?
Demanda Ravine.
Rondaltor, je veux dire. Lors d'un duel, t'aurait-il vaincu ?
Non que Ravine s'en serait cru incapable, le cas échéant. Idem pour Samael, d'ailleurs. Bien sûr, si l'un des hommes attaquait, Grindal unirait sans doute ses forces à celles de Lanfear. Pour faire face, au cas où, les deux femmes devaient être remplies de pouvoir à en exploser et prêtes à frapper au premier comportement suspect des mâles. En même temps, elles se surveillaient du coin de l'œil. Mais ce fermier de malheur, un berger sans formation. En tout cas, jusqu'à ce qu'Asmodéane s'y colle.
« Il est la réincarnation de Loustérine Telamon, »
répondit Lanfear.
« Un homme aussi puissant que n'importe lequel d'entre nous. »
Sans y penser, Samael frotta la balafre qu'il devait justement à Loustérine. L'affront remontait à plus de 3000 ans, très longtemps avant la dislocation du monde, l'incarcération du Ténébreux et bien d'autres événements. Mais le mot « oubli » ne figurait pas dans le vocabulaire de Samael.
« Au moins... »
intervint Grindal.
Nous voilà en train de parler du sujet qui nous amène tous ici.
Ravine eut un frémissement de profond déplaisir. Les deux serviteurs étaient toujours pétrifiés, ou plutôt de nouveau, et Samael marmonnait dans sa barbe.
Si Rondaltor est vraiment Loustérine Telamon,
continua Grindal, s'appuyant au dos du colosse désormais accroupi à quatre pattes.
Je m'étonne que tu n'aies pas tenté de l'attirer dans ton lit, Lanfear. Mais la difficulté t'a peut-être découragé. Si je me souviens bien, c'est Loustérine qui te menait par le bout du nez, et pas le contraire. Insensible à tes caprices, il ne bronchait pas quand tu tapais du pied. En quelque sorte, il t'envoyait à lui acheter du vin, et tu filais doux.
Grindal posa sa coupe sur le plateau que tenait désormais la servante.
Il t'obsédait tellement que tu te serais étendu à ses pieds s'il avait dit le mot « carpette ».
Une lueur noire dansa dans le regard de Lanfear, qui mit quelques secondes à retrouver son calme.
« C'est la réincarnation de Loustérine, »
dit-elle.
« Mais pas Loustérine en personne. »«
Comment le sais-tu ?»
demanda Grindal, souriant comme si toute cette affaire était une farce.
« Ainsi que le croient bien des gens, il est possible que tout le monde naisse et renaisse au fil des rotations de la roue du temps. Mais nous nous trouvons devant un phénomène inédit. En tout cas, si je me fie à mes lectures. Un individu particulier se réincarnant en accord avec une prophétie. »
Lanfear eut un sourire hautain.
Je l'ai observé très attentivement. Il n'est rien de plus que le berger qu'il semble être, et encore plus naïf qu'il le paraît.
Le sourire s'effaça.
Mais il a maintenant un allié. Asmodéane, si minable soit-il. Et même avant ça, 4 élus sont morts en l'affrontant.
Eh bien, laissons-le séparer le bon grain de l'ivraie,
marmonna Samael. Avec un tissage d'air, il fit glisser un fauteuil jusqu'à lui et s'y installa, les chevilles croisées et un bras posé sur le dossier assez bas. Une posture qu'il ne fallait surtout pas prendre pour argent comptant. S'il semblait avoir baissé sa garde, il restait vigilant, et envisager de le prendre par surprise aurait été une grossière erreur.
« Comme ça, »
continua-t-il,
« il y en aura plus pour les survivants lorsque viendra le jour du retour. Ou le crois-tu capable de remporter l'ultime bataille, Lanfear ? Même s'il parvient à regonfler cette baudruche d'Asmodéane,
Il n'a pas les 100 compagnons à ses côtés cette fois. Asmodéan ou pas, le grand seigneur des ténèbres soufflera sa vie comme la flamme d'une bougie.
Lanfear riva sur Samael un regard méprisant.
Combien d'entre nous seront encore en vie lorsque le grand seigneur se libérera enfin? 4 morts déjà. Seras-tu la prochaine cible, Samael? Tu ne détesterais pas ça, hein? En cas de victoire, tu pourrais enfin te débarrasser de cette balafre. Mais où ai-je donc la tête? Combien de fois l'as-tu affronté durant la guerre du pouvoir? Et pour combien de succès? Aucun, si ma mémoire est bonne.
Sans marquer de pause, Lanfear s'en prit à Grendal.
Et si c'était toi? Pour une raison qui me dépasse, Randall Thor répugne à blesser les femmes. Mais tu n'aurais même pas la possibilité de choisir, contrairement à Asmodéan.
Que pourrais-tu lui enseigner? Aussi utile qu'un caillou sur ce plan-là.
Sauf s'il décide de te garder comme animal de compagnie.
Voilà qui te changerait, n'est-ce pas? Au lieu de décider lequel de tes mignons te plaît le plus, tu apprendrais à plaire.
Voyant la grimace de Grendal, Ravine se prépara à tisser un bouclier contre tout ce que les deux femmes étaient susceptibles de s'envoyer à la figure. Prudent, il prit même la précaution de pouvoir voyager en urgence, au cas où elles auraient recours à des torrents de feu, même si elles se contentaient de ruisselets. Ravine sentit soudain que Samael s'emplissait de pouvoir, et il capta une subtile différence entre sa démarche défensive et celle de l'autre rejetée.
« Une façon de s'assurer un avantage tactique », aurait dit Samael.
Ravine se pencha pour saisir le bras de l'autre mâle présent. Bien entendu, Samael se dégagea rageusement, mais l'occasion s'était envolée. Les deux femmes ne se défiaient plus du regard, dévisageant au contraire leurs compagnons. Sans pouvoir déterminer ce qui avait failli se produire, elles sentaient qu'il était arrivé quelque chose entre Ravine et Samael, et ça éveillait leurs soupçons.
« Je veux entendre ce que Lanfear a à dire »,
déclara Ravine, sans regarder Samael, même si le message lui était adressé.
« Il y a sûrement davantage derrière tout ça qu'une absurde tentative de nous effrayer. »
Samael secoua la tête, sans qu'il soit possible de deviner s'il acquiesçait ou manifestait son mécontentement. « Tant pis, il faudra faire avec. »«
Il y a beaucoup plus que ça, »
confirma Lanfear, de la méfiance dans les yeux, mais d'une voix claire et assurée.
« Cela dit, une bonne frousse peut être salutaire. Ishamael a tenté de contrôler Randall Thor, et il a échoué. Il a aussi essayé de le tuer sans plus de succès. Mais Ishamael est un adepte de l'intimidation et de la terreur. Et ça ne fonctionne pas avec Randall Thor.
Ishamael était à demi-fou. »
marmonna Samael.
Et moins qu'à moitié humain.
C'est ce que nous sommes?
Demanda Grendal.
Seulement humain? Pour moi, nous sommes bien plus que ça.
Elle passa un index sur la joue de la femme au plateau.
Voilà une misérable humaine. Pour nous décrire, il faudra inventer un nouveau mot.
Quoi que nous soyons,
dit Lanfear,
nous pourrons réussir là où Ishamael a échoué.
Penchée en avant, la fille de la nuit semblait vouloir faire entrer de force ses propos dans la tête des autres. Pourquoi tant d'intensité, alors qu'elle se départait rarement de son calme?
« Pourquoi seulement nous quatre ?»
demanda Ravine. Son autre question devrait attendre.
« Pourquoi être plus nombreux ?»
répondit Lanfear.
« Le jour du retour, si nous pouvons forcer le dragon réincarné à se prosterner devant le grand seigneur de ténèbres, pourquoi partager cet honneur et les récompenses qui iront avec, plus qu'il est nécessaire? Qui sait ? Nous réussirons peut-être à utiliser Randall Thor pour... Comment as-tu dit, Samael? Séparer le bon grain de l'ivraie? »
Le genre de réponse que Ravine pouvait comprendre, même s'il ne se fiait ni à Lanfear ni aux autres. L'ambition, voilà une notion qui lui parlait. Jusqu'au jour où Loustérine les avait emprisonnés en même temps que le grand seigneur, les élus avaient passé leur temps à comploter les uns contre les autres. Et ils étaient repartis de plus belle, une fois libres. L'essentiel était de s'assurer que la machination de Lanfear ne perturberait pas ses propres plans.
« Nous t'écoutons, Lanfear. »
« Pour commencer, quelqu'un d'autre essaie de le contrôler, voire de le tuer. Je soupçonne Mogedienne ou Demandred. Mogedienne a toujours agi dans l'ombre, et Demandred déteste Loustérine depuis le début. »
Samael eut un rictus, mais sa haine, même si elle était justifiée, semblait bien pâle comparée à celle de Demandred.
« Comment sais-tu qu'il ne s'agit pas de l'un d'entre nous ?»
demanda Grendal avec un sourire hypocrite. Lanfear lui adressa un sourire tout aussi faux et encore plus glacial.
« Parce que vous trois, vous avez choisi de vous creuser des refuges afin de mettre en sécurité votre pouvoir. En revanche, les autres ne cessent de se porter des coups. Cela dit, ce n'est pas la seule raison. Je surveille de près Randall Thor, et c'est très instructif. »
L'Anfear venait de dire la stricte vérité. Ravine lui-même préférait la diplomatie et les manipulations aux conflits ouverts, même s'il ne répugnait pas à s'en mêler en cas de nécessité. Malgré son penchant affirmé pour les armées et les grandes campagnes, Samael n'approcherait pas de Loustérine, même revenu dans la peau d'un berger, avant d'être sûr de vaincre. Graendal aussi pratiquait la conquête, même s'il n'avait pas besoin de soldats pour ça. Malgré l'intérêt qu'elle portait à ses joujoux, elle n'avançait que d'un pas à la fois. Ouvertement, certes, du moins selon le point de vue très particulier des élus, mais sans jamais s'aventurer trop loin à chaque enjambée.
« Vous savez que je peux garder un œil sur Altor sans me faire repérer ?»
continua l'Anfear.
« Vous, en revanche, il vous faudra rester loin de lui, ou courir le risque d'être détecté. Nous devons le faire revenir. »
Graendal tendit l'oreille, et Samael approuva du chef la suite de l'exposé de l'Anfear. Ravine resta plus circonspect. Ça pouvait fonctionner, ou non. Et si ça ne fonctionnait pas, il voyait plusieurs moyens d'en tirer parti. Oui, au fond, c'était peut-être un très bon plan.